Maurice Renard, Hippolyte. Nous l'appelions Hippolyte. C'était un cul-de-jatte, mais un cul-de-jatte exceptionnel. Il passait ses journées à la porte du quartier de la cavalerie. D'un côté de la grille, il y avait le factionnaire et sa guérite, et de l'autre, il y avait Hippolyte sur son petit chariot à roulettes. Quand j'arrivais au 33e dragon, il y a 16 ans sonnés, ayant sur ma manche un galon d'argent tout flambant neuf, Hippolyte était là, et malgré l'orgueilleuse émotion que j'éprouvais à avoir la sentinelle porter l'arme sur mon passage, je remarquais le salut d'Hippolyte. Il faisait partie du régiment. Hippolyte à la suite, disait-on gaiement. Et depuis le colonel jusqu'au petit chien de la cantinière, il ne comptait que des amis. Je crois même, Dieu me donne, que les chevaux le connaissaient. J'en ai vu tourner la tête vers lui, et avec un hennissement affectueux. Et c'est une bizarrerie à laquelle je ne songe pas aujourd'hui sans perplexité. Mais après tout, cet étrange cul-de-jatte avait une connaissance si approfondie du cheval que cela suffit peut-être à expliquer le phénomène. Il avait le sens hippique. Il comprenait le cheval. Pourquoi le cheval ne l'aurait-il pas compris? Naturellement, je tombais de mon haut le jour où je constatais que mes camarades les plus expérimentés avaient parfois recours à ses lumières et ne craignaient pas de lui demander conseil. Mais on m'apprit que du temps de ses jambes, Hippolyte avait servi dans la cavalerie. Il citait son ancien régiment en garnison dans le Midi. Seulement, il n'aimait pas qu'on insistât là-dessus, ni sur rien de son passé. Ce passé qu'un accident terrible et mystérieux avait transformé en paradis perdu. Hippolyte n'était pas un mendiant. Très pauvre toutefois, il acceptait avec une sereine indifférence les petites sommes que nous lui remettions les uns et les autres en échange de ses consultations. Car c'était de véritables consultations, je vous le dis. Cet homme, ce torse qui avait l'air d'un homme enterré jusqu'à mi-corps, n'avait pas son pareil pour savoir par intuition bien des choses qui nous échappaient. L'équitation et surtout l'hygiène du cheval n'avaient pour lui aucun secret. Hippolyte, ma jument boite, je ne sais pas pourquoi. Qu'en pensez-vous? Hippolyte, voilà un bourrin qui tire au renard. Vous n'avez pas un truc pour l'empêcher, Hippolyte? Hippolyte, on propose le job. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Hippolyte se trompait rarement. « Bon, capitaine, si j'étais de vous, moi, j'achèterais pas cette bête-là. »« Beaux aplombs, de l'os, dessus de premier ordre, quel jarret !»« Ça saute, ça, mon capitaine, sûr et certain. »« Et c'est joli à voir, mais n'achetez tout de même pas, je n'ai pas confiance. » L'anecdote était célèbre. Le capitaine avait passé outre et le beau Cobb s'était révélé charognard, vicieux comme le crime. Hippolyte voyait les chevaux avec des yeux privilégiés. Il les devinait, il les lisait. « Oh, j'ai ça dans le sang, mon lieutenant !» Et il souriait. Non sans mystère, en vous regardant de ses yeux étonnamment noir, qui ne ressemblait pas aux yeux de tout le monde. Il était toujours nu-tête, fort beau d'ailleurs, de visage et de musculature. Les cheveux, comme la barbe, noirs, étaient abondants, frisés, le teint hâlé par le grand air, une poitrine d'athlète. Je lui dis un jour, pour ignorant encore qu'il détestait les questions, « Mais dit Hippolyte, vous étiez très grand, n'est-ce pas ?» Il détourna la tête d'un air maussade et dédaigneux. « Si je vous le disais, mon lieutenant, vous ne me croiriez pas. J'étais bien plus grand que vous, vous ne l'avez pouvé en imaginer. » Il y avait en lui une immense naïveté, beaucoup de suffisance. Nous ne le considérions pas précisément comme un brave et honnête garçon, mais plutôt comme un baudri à la fois sympathique et inquiétant. Quelque chose d'indéfinissable contenait notre familiarité. Je ne sais quoi, peut-être l'impression qu'on ressent en face d'un étranger, peut-être tout simplement le peu de confiance que montrait lorsque nous voulions le faire parler de lui-même. Tout ce qu'il demandait, en effet, c'était qu'on le laissât stationner sur sa planche, à la grille, pour voir les chevaux sortir et rentrer. Ni le soleil ni la pluie ne l'incommodaient. Les factionnaires se succédaient, et Hippolyte était toujours Hippolyte. Il arrivait au réveil, il repartait qu'après la soupe du soir. On lui abordait sa gamelle deux fois par jour, sa gamelle de pauvre, sans viande. Il figurait une borne vivante qui vous saluait avec reconnaissance et une aisance assez enviable. Nous savions qu'il logeait non loin du quartier tout seul dans une chambre du rez-de-chaussée. Personne n'eut jamais l'idée d'aller lui rendre visite. Et pourtant, cette visite-là, combien je regrette de ne l'avoir pas faite pendant qu'il vivait. D'où venais-tu? Qui étais-tu, surprenant Hippolyte, dont le nom cavalier n'était sans doute qu'un surnom opportun et facétieux, donné par quelques lieutenants qui ne se souvenaient pas de l'avoir baptisé? Le saurons-nous jamais? Il y avait dans cette ville du Nord, où je garnisonnais, qu'on organisa un concours de tir à l'arc devant le quartier où s'étendait un terrain vague. Et ce jour-là, pour la première fois, Hippolyte déserta son poste. Et ce fut lui qui gagna le prix haut la main, plaçant toutes ses flèches dans la cible et montant ainsi une adresse déconcertante. Aucun de nous, cependant, n'en fut frappé. Et du reste, eût-il été raisonnable de se frapper? Ah, il fallut vraiment, pour en avoir des raisons, savoir ce que je devais apprendre plus tard, savoir quels étranges tableaux ornait la chambre d'Hippolyte. Je ne le sus que pendant la guerre, en revenant par une triste et silencieuse soirée dans la ville en question et dans la ville en ruine. Après avoir parcouru les décombres de notre vieux casernement, j'eus l'idée de m'enquérir d'Hippolyte. On me dit qu'il avait été tué au cours d'un bombardement et que sa dépouille avait disparu. J'entrai dans sa chambre défoncée. Et c'est alors qu'une fantastique lumière éclaira pour moi l'être secret dont l'ambiguïté m'avait pareillement échappé jusque-là. Un grand nombre de gravures et de photographies tapissait encore les murailles croulantes. Toutes représentaient des centaures. Toutes dressaient la fière statue de monstres fabuleux, moitié hommes et moitié chevaux, cabrés, galopants, tirant à l'arc, occupés de rapt ou de combat. Ici le centaure Chiron, précepteur d'Achille, enseignait à son élève comment la flèche se pose sur le poing. Et là le centaure Nessus enlevait en croupe des janires. Et partout, partout, les attaques antiques s'agitèrent, frères des satyres et des sirènes, érigés comme une encolure, sans crinière le torse athlétique. Et c'est au milieu de ces effigies qu'Hippolyte venait chaque soir, qui sait rêver, se souvenir. Se souvenait-il donc d'avoir jamais martelé le sol au rythme de quatre sabots retentissants, avant de n'être qu'un buste? Quelle forme l'avait prolongé? Pardieu, il est certain qu'Hippolyte ne fut jamais un homme cheval, mais simplement un homme de cheval, douloureusement mutilé. Pardieu, il avait été bipède comme vous et moi, je le sais bien. Mais la vie d'à présent est si plate, si peu merveilleuse, que j'éprouve une sorte de plaisir équivoque très aigu à penser que jamais le triste corps trop sonné d'Hippolyte ne fera l'objet d'une autopsie, et que par conséquent jamais nous aurons la preuve absolue de la vérité, et que peut-être avec cet original estropié, j'ai connu la dernière moitié du dernier centaure.